Pas mal de problèmes à 4 minutes du 17h tapant. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. Audrey, le bilan.
Ça ne s'allège pas du tout en ce moment. Si vous êtes sur la capitale, direction ouest entre Henri IV et Laurentienne, difficile. Direction ouest, ça se passe entre Seigneurial dans le coin de Beauport et Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord entre Charest et la capitale, ça ne bouge pas. Charest est hauteur, Robert Bourassa, difficile. Direction ouest, toujours sur Charest, c'est à partir, je dirais, de Duplessis environ jusqu'au IKEA là, qu'on sent vraiment un bon ralentissement. L'entrée des ponts, direction sud, ça n'a pas bougé non plus, toujours difficile. Devant la base militaire dans le coin de Chalon, route de la Bravoure dans les deux directions, ralentissement à prévoir. Pour ce qui est de la rive sud, il y a un ralentissement assez inhabituel sur Guillaume Couture, carrément entre Chemin des Îles et Taniata, et ça semble être un accident si jamais vous avez des détails. Puis il y a aussi un incident à prévoir un peu après Chemin des Îles si vous êtes sur la 20 ouest, ce qui fait en sorte que, admettons, route du président Kennedy et Taniata, là, c'est assez le bordel. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
C'est un plaisir sans cesse renouvelé d'accueillir en studio Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Élise, bonjour.
Bonjour les collègues, comment allez-vous?
Ça va bien, ça va bien. Les journées commencent à allonger un petit peu.
C'est incroyable l'effet que ça peut avoir sur un corps humain.
La lumière est essentielle à notre bien-être.
Je sais qu'on va parler de sevrage aujourd'hui,
oui.
Mais j'ai l'impression que justement, à un moment donné, on vient tout en manque de lumière là, pendant les mois où les nuits commencent tôt, les matins commencent tard. Puis dès qu'on a un petit peu plus de luminosité, là, on dirait que ça nous prenait notre dose
exact. Solide. Ouais.
Les sevrages. Évidemment, quand on parle de sevrage, les premières réactions qu'on a souvent, c'est de penser à l'alcool, de penser aux drogues, mais il y a un paquet d'affaires qui rentrent là-dedans aussi. Là.
Ben oui. En fait, c'est que toute substance et ou, en fait, chose qui vous donne du plaisir intense et instantané, peut finir par être une dépendance et peut, ça rentre tout à ce qu'on appelle le cycle de la récompense. Puis là, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a quatre, en fait, neurotransmetteurs / hormones du bonheur. Il y a l'ocytocine, qui est entre autres sécrétée quand on allaite des bébés, mais qui est aussi sécrétée par notre cerveau quand on fait des câlins. Le contact humain, l'ocytocine. On a la sérotonine, qui est beaucoup en lien, en fait, quand on en manque avec l'état dépressif. Ça, c'est plus l'état de bien-être de base, être heureux sans être malheureux ou être zen, si vous voulez. Le cycle de la récompense, lui, c'est la dopamine. C'est la fameuse hormone, en fait, c'est un neurotransmetteur, qui va augmenter quand on fait quelque chose qui est très excitant. Ça peut être, comme tu disais, il y a toutes sortes de dépendances. Là. Ça peut être le jeu vidéo. Ça peut être manger quelque chose qu'on aime énormément, un gâteau au chocolat.
Ça rentre là-dedans, là, le sucre,
exactement.
Mettons.
Ouais. Évidemment, quand on parle d'alcool, quand on parle de drogue, c'est qu'il y a des drogues qui vont aller se brancher directement dans le cerveau, qui vont créer l'augmentation de dopamine. Là. Entre autres, l'héroïne, le fentanyl, la cocaïne. Bref, la plupart des drogues vont finir par aller augmenter votre dopamine de façon importante.
Mais là, c'est pas le plaisir qui est provoqué.
C'est ça, c'est que le cycle de la récompense et la dopamine, c'est très temporaire. Puis si vous avez comment pourrais-je dire? Il y a des gens qui ont une facilité, sans le vouloir, à devenir dépendants. Mais là, à chaque fois que la dopamine augmente, elle diminue, c'est assez rapide. Et là, vous allez vouloir recréer ce cycle-là. Mais il y a des gens pour qui, tu sais, je veux dire, on a tous des choses qui nous créent beaucoup de bonheur en peu de temps. Puis ça ne veut pas dire que vous allez devenir dépendant à ça nécessairement.
Mais est-ce que tu peux être dépendant à certaines choses puis te foutre de d'autres? Je m'explique, mettons, moi, le sucre, là, c'est épouvantable comment j'ai la misère à me débarrasser de ça. Mais d'un autre côté, tout ce qui est drogue, alcool, j'ai pas l'impression que je pourrais tomber dépendante. Fait qu'est-ce que... Comprends-tu ce que je veux dire?
Oui, c'est
une étiquette de base où ça dépend... Exactement, où ça dépend des produits que tu consommes.
Exact, ça dépend de ta fragilité personnelle, si tu veux. Là. Puis c'est dans le cas du sucre que tu parles. En fait, c'est les fameuses expériences de Pavlov, là, dans le sens que le sucre... mettons là que tu dis « Ah, je vais aller me manger un sac de jujube pour dire quelque chose », tu te souviens que la dernière fois que tu as mangé un sac de jujube, t'étais stressé, t'as pris ton temps, t'as mangé tes jujubes, t'étais bien, puis là t'as comme fait « Ah, quel bonheur », puis ton cerveau, à force d'avoir mangé des jujubes à chaque fois pour te récompenser, va se souvenir que les jujubes sont associés à la récompense.
Comme un chien.
Et c'est vraiment, ben en fait, Pavlov c'était
le chien,
avec les chiens, justement.
Ah, bon, okay.
Oui, Pavlov. Tout à fait, fait que ça vient de là. Puis les humains, on est comme d'autres mammifères, donc les chiens, et on crée le même cycle de récompense.
C'est quand même particulier parce que je vais parler de deux produits qui créent des fortes dépendances, puis mon expérience personnelle entre les deux est radicalement différente. Je fume des cigares. je suis capable d'arrêter de fumer pendant 2 mois, 3 mois. J'ai pas de manque, j'ai pas d'impression de sevrage, j'ai pas d'impression de besoin non plus. Je peux tomber en vacances, puis là, je peux me griller 2-3 cigares par jour quand il fait soleil, puis que je me donne l'impression que je suis en Jamaïque, alors que je suis à Charlebourg, là. Mais, tu sais, en période hivernale, quand il fait moins 30 dehors, le plaisir de fumer un cigare,
il diminue, hein?
Pendant 30 minutes, je le trouve juste pas, mais j'ai pas ce besoin-là. L'alcool, faut que je fasse attention. L'alcool, je sens que c'est facile pour moi de prendre une bière à tous les jours. Je sens vraiment la différence physique et mentale entre les deux.
En fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a, tu vois déjà que tu parles du contexte, par exemple. Ouais. Le cigare, pour toi, est associé aux vacances. Tu n'es pas en vacances 52 semaines par année.
Si
donc,
seulement. Si seulement,
tu parles de oui, tout le monde se dit la même chose. Mais tu parles de chaleur, tu parles de soleil. Fait que là, tu dis, ben là, l'hiver, il fait froid. Fait que déjà, ton cerveau s'est conditionné à dire le cigare est associé à certains...
Il y a un contexte
très précis. Mm-hmm. Versus l'alcool, pour toi, si c'est la fin de la journée a été stressante, je vais me prendre une bière juste pour... couler dans ma journée. Puis là, à chaque jour, donc, tu peux te dire exactement dans le contexte, ah, oh, j'ai une bonne journée aujourd'hui, ah, oh, les enfants ont été quelque chose, etc.
Je suis le gars de la pub. Je suis le gars de la pub dans le temps de la pandémie. J'ai eu une bonne journée, je le mérite. J'ai eu une mauvaise journée, hey, tabarnouche, je le mérite.
C'est facile, hein, je le mérite.
Oui.
Ben, c'est exact, puis c'est comme ça que ce cycle-là de récompense se crée. Fait qu'il y a des gens, c'est j'arrive à la maison, je vais aller écouter la télé ou les jeux vidéo. En fait, même les réseaux sociaux, tout maintenant aussi, ce qui est étonnant, entre autres dans la technologie, a été construit pour créer des dépendances et stimuler le cycle de la récompense.
Mais là, est-ce que toutes les dépendances créent des sevrages si on s'en prive? Parce que, tu sais, Denis, il disait, j'aurais pas de symptômes de sevrage de cigare. Mais tu sais, c'est sûr que quand on parle de drogue, on les voit, les symptômes. Audrey a tenté de se sevrer
le café.
Audrey a tenté de se sevrer du sucre. Denis a déjà tenté de se sevrer du café. C'est des maux de tête qui viennent avec.
Ah, est-ce le café, je suis addict, là.
Est-ce que tous les symptômes sont égaux selon les différentes dépendances ou les productions de dopamine?
Exact. Non, la réponse, c'est non. Parce que, mettons, on va prendre la nicotine, par exemple, qui va aller se brancher sur des récepteurs spécifiques dans votre cerveau. Puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous fumez, donc plus vous augmentez votre consommation de nicotine, entre autres, il va y avoir de plus en plus de récepteurs qui vont se créer pour la nicotine. Fait que là, vous comprenez que c'est que vous créez, il y a une tolérance qui se crée dans le corps sur ces substances-là. Le café est un bon exemple, l'alcool, toutes les drogues, c'est comme ça. Donc, la journée où vous diminuez votre consommation, comme vous étiez devenu de plus en plus tolérant, automatiquement, il va avoir des symptômes de sevrage associés. Le sucre, c'est différent parce qu'il n'y a pas de récepteur dopaminergique. Fait que si, mettons, Audrey, toi, tu as vécu des symptômes de sevrage, il y a deux options possibles. Un, tu étais clairement dans un cycle de récompense. Donc, tu es déjà d'avoir moins de dopamine parce que là, tu ne manges pas de sucre, tu ne te sens pas bien. Fait que ça, peu importe la dépendance, on va avoir des petits symptômes, mais c'est plus léger. L'autre chose, c'est peut-être juste l'apport calorique. Si tu mangeais full sucre, de jujubes, de gâteaux, puis là, genre, tu mangeais comme 600 calories de plus par jour, puis du jour au lendemain, tu coupes ça, ton corps, il va faire... Pourquoi, là, j'ai plus ces calories-là?
Ça fait du sens.
Mal de tête, j'ai faim,
chaleur,
je suis pas bien.
Oui,
exactement,
oui.
Parce que t'es peut-être juste en déficit, en fait, de calories, parce que t'as pas mis, mettons, des bons sucres, t'as pas rajouté des bananes, des pommes ou des choses comme ça.
Puis tu sais que ça prend plusieurs bananes pour combler un besoin de chocolat.
Bien, c'est ça. Exactement.
C'est vrai.
C'est un bon point. Fait que c'est le genre de choses, quand c'est alimentaire, où les nutritionnistes sont vraiment les meilleurs pour dire, OK, t'sais, clairement, mettons, vous cravez pour des chips puis du gras. Ben là, on va aller le transformer avec d'autres choses.
Élise, le pire manque à gérer, c'est lequel? Tu sais, on voit dans les films souvent les drogues dures, à quel point le monde vire fou. Y en a qui nous disent que c'est l'alcool, il y en a qui nous disent que c'est le tabac. Universellement, y a-tu un manque qui est plus dur à gérer que l'autre pour des raisons chimiques, mettons?
Celui qui est le plus relié au décès, c'est l'alcool. Parce que l'alcool, dans le fond, va se brancher sur des récepteurs qui, quand vous le retirez l'alcool subitement, vous êtes à haut risque, entre autres, de faire des convulsions, faire une maladie rare qui s'appelle le délirium tremens.
Donc, c'est vrai tout ça.
Une tempête électrique dans le cerveau, vous hallucinez des bébites, votre cœur roule à 150, puis il y a des gens qui en décèdent à chaque année. Fait que la substance, puis évidemment, comme l'alcool est très accessible, c'est ce qu'on voit le plus. Puis à chaque année, il y a des décès associés. Héroïne, cocaïne, amphétamine, toutes les autres drogues, les gens vont se sentir très mal. Mais de là à dire qu'ils vont en décéder, habituellement, non. Puis là, nous, en fait, maintenant, puis là, c'est le danger aussi, parce qu'on peut donner des médicaments pour pallier le symptôme de sevrage, mais on ne veut pas les rendre dépendants aux médicaments, ouais. Vous comprenez? Fait que là, nous, il faut qu'on fasse attention quand on les soigne, ces gens-là, pour éviter de les rendre dépendants à d'autres choses.
Mais pour créer ce manque-là pour la boisson, parce que ce que tu dis, c'était peurant, tabarnouche, faut que tu en prennes, genre, dans des quantités astronomiques. Oui. Je pense au chanteur de Sum 41. C'est un cas qui est connu, qui est documenté.
Son fouet n'était plus fonctionnel.
Les boys rentraient dans le tour bus, puis il y avait des bouteilles de Jack Daniels vides quasiment jusqu'à la taille, littéralement. Ça veut dire, tu sais, quand on parle de symptômes graves comme ceux-là, c'est des gens qui sont en état d'ébriété constant, j'imagine.
C'est pas 3-4 consommations par jour. Uh-huh. Nous, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est des gens qui prennent une 24, qui prennent des 26 onces par jour.
Oh mon Dieu.
Fait que comprenez-vous que eux, leur taux d'alcool dans le sang standard, moi, si j'avais ce taux d'alcool-là, je serais dans le coma à terre, mais eux sont très fonctionnels et ils te parlent comme je te parle.
Oui.
Ça paraît pas, parce qu'on fait toujours un dosage sanguin, parce que dans le fond, on veut savoir quand est-ce qu'on commence nos médicaments, fait qu'on vérifie, puis là, on leur demande, c'est quand la dernière fois vous avez consommé, puis là, souvent, ils me disent, bien, j'ai consommé la dernière fois à 8 heures le matin, parce que ces gens-là en prennent tout le temps, là, ils déjeunent en buvant de l'alcool, ils dînent en buvant de l'alcool, puis là, à ce moment-là, on regarde leur taux d'alcoolémie, puis on est comme, mon Dieu, ils sont 4 fois la limite permise, puis j'aurais jamais cru.
Il y a un texto qui est entré. Est-ce que les antidépresseurs font le même genre de choses sur les récepteurs? Parce qu'on entend souvent dire qu'il faut que tu te
sevrages
carrément.
En fait, c'est tout à fait... La réponse, c'est encore une fois, oui, vous le savez, je réponds toujours un peu dans la nuance.
Ouais,
exact.
Hein, ouais, c'est ça.
C'est tout dépendant parce qu'il y a plusieurs classes d'antidépresseurs. Puis effectivement, par exemple, il y en a beaucoup qui jouent sur la sérotonine. Je vous disais que c'est l'hormone d'antidépresseur, si vous voulez, la sérotonine. Ce qui fait qu'il y a, entre autres, des antidépresseurs qui vont fonctionner pour augmenter le taux de sérotonine dans notre synapse. Il y en a d'autres qui vont aller se brancher sur le récepteur de la sérotonine pour pouvoir qu'il soit plus accessible. Bref, il y a différents mécanismes. Et donc, oui, tout à fait. Une fois que vous avez fait de la psychothérapie, votre vie va mieux. Puis là, on se dit, OK, là, la béquille médicamenteuse qui était nécessaire, hein, je dis béquille, mais de façon très positive, comme quand on se casse une jambe, on a une béquille. Mais là, tranquillement, souvent, il faut la diminuer de façon très en marche d'escalier parce que sinon, ça crée effectivement des symptômes de sevrage. Tout à fait.
Combien de temps? J'imagine que ça dépend évidemment des substances, là, mais combien de temps ça peut prendre? Je vais reprendre le sucre ou le café en exemple parce que j'ai l'impression que c'est la majorité des gens.
C'est plus commun,
oui. Tu sais, moi, j'avais pas comme but au début de l'année d'arrêter le sucre, sauf que je suis partie en voyage, ça a donné que j'en ai quasiment pas pris, puis je me suis dit, hey, je vais essayer de continuer ce lancer-là. Puis ça a comme pas été long, on dirait que. Une semaine et demie, là.
OK, OK.
Oui, c'est ça. Puis je me suis dit, mettons que j'avais voulu vraiment forcer puis être super assidue par rapport à ça, jusqu'à combien de jours, de semaines tu peux ressentir vraiment un inconfort avant que ton corps s'habitue?
En fait, il y a deux choses. Il y a, mettons, on parlait de l'alcool ou des drogues. Mm-hmm. Tu sais, le principe de dopamine puis de sevrage dans le cerveau est assez rapide. C'est quelques jours. Mais par contre, il y a tout le volet de ton comportement.
D'habitude.
De cycle de récompense qui, ça, c'est toute la vie, en fait. Là, de pas, je te dis pas d'avoir mal au cœur, de te sentir vraiment pas bien. Ça, habituellement, c'est assez rapide. Mais de dire qu'à un moment donné, on a on crave en bon québécois pour de la dopamine, ben là, ça peut durer toute la vie. Là. C'est dans le sens que c'est ce cycle-là est extrêmement fort.
Puis qu'est-ce qu'on fait, mettons, pour les maux de tête?
Hey, juste avant, je vous interromps. Là, il y a une poursuite policière sur Laurentienne Sud. Le policier et la voiture suivie semblent avoir sorti à Jean Talon. C'est à haute vitesse, nous signalent les auditeurs. Fait que les gens qui sont dans ce secteur-là, soyez vigilants.
Vigilant.
La parenthèse est refermée. Désolé, Audrey.
Mais non, je ne sais plus où je m'en allais, par exemple.
Avec ton mot de tête. T'as dit mot de tête?
Symptômes. Caféine, ouais, c'est oui, c'est ça. Tu sais, caféine, des fois, tu ressens des forts mots de tête. Là, qui...
Oui.
Puis là, on dirait que tu prends... Je me suis même rendu... Parce que je consomme pas beaucoup de caféine. Je sais que Denis, t'es un accro complet, là.
mais caféine.
Quand, mettons, j'en prends pendant une couple de semaines parce que c'est donc bien le fun, c'est le temps des fêtes, mettons, puis que j'arrête, les maux de tête sont intenses. Puis j'ai beau prendre, mettons, Advil, Tylenol, faire le cocktail magique de 2-2 en cas extrême, il y a rien qui marche. Il faut juste que tu l'endures.
Ouais. Ou tu prends une petite dose, puis là, tu y vas en marge d'escalier. Mettons que tu prenais 8 cafés par jour, bien là, tu dis, OK, si je passe de 8 à 0, puis effectivement, c'est des maux de tête puis des symptômes qui sont durs à soulager, Ben là, vas-y par 6, par 5, par 4, par 3, par 2, par 1. Fait que les fameux récepteurs que je vous parlais, qui sont en quantité industrielle, stimulés par le café, vont tranquillement shrinker. Ça se renouvelle vite, cette affaire-là. Là. Puis tranquillement, vous allez finir par avoir moins de symptômes. Mais si vous y allez tout d'un coup, parce que vous dites, non, moi, il faut que j'arrache le plaster, il faut que je fasse ça d'une traite.
Ça va être rough.
C'est rough, mais c'est rough assez rapidement. Là. Comme je disais, souvent, un 3-4 jours, c'est fini. Là.
Élise, j'ai deux questions, les deux sont comme intimement reliées. La première, c'est, est-ce que ça existe des gens qui vont être addicts à tout? Un comportement ou une personnalité d'addict qu'il faut qu'il fasse attention à tout ou à peu près. Là. S'il n'est pas addict à l'alcool ou s'il réussit à régler l'alcool, il va devenir addict à autre chose puis il va tout le temps passer d'une addiction à l'autre. Puis mettons, à l'autre extrémité, ça se peut-tu quelqu'un qui développera jamais d'addiction, même avec, mettons, les pires scénarios, là, l'alcool, la drogue dure ou ainsi de suite, ça se peut-tu, ça?
En fait, c'est qu'on a des fragilités sur notre enfance, notre expérience. C'est le lien qu'on a avec, encore une fois, la fameuse dopamine, ce besoin-là de se faire donner une récompense. Ça peut être une fragilité qu'on a. Fait que oui, puis on a des vedettes en tête, on dirait qu'ils ont passé de l'alcool à la drogue, au jeu, au pathologique. Puis comme, voyons, ils sont toujours mal pris. Donc oui, il y a des gens qui sont fragiles à ça, puis c'est là où il n'y aura jamais un médicament qui va pouvoir les aider. C'est des années de psychothérapie, de comprendre pourquoi tu as besoin d'être toujours en mode cycle de récompense dopaminergique très intense. Ils vont être dépendants au sexe, ils vont être dépendants...
Tout le temps quelque chose.
Ils vont toujours avoir quelque chose. Puis ça, c'est de la psychothérapie, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Et à l'inverse, il y en a qui vont avoir eu justement... par chance, une enfance heureuse. Ils vont toujours avoir eu un environnement sécuritaire.
La tempête parfaite, mais du bon bord.
Là. Exactement. Ce qui va faire que même s'ils sont exposés à quelque chose qui donne des gros pics de dopamine, ils vont faire « Ah oui, c'était le fun, mais c'est correct. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. » Puis ils vont continuer
Même avec des substances hautement addictives comme, mettons, l'héroïne?
Oui, parce qu'en fait, toute drogue a un effet pervers. Quand tu sens le grand bonheur d'une drogue très intense comme l'héroïne, la partie très négative après où tu te sens vraiment pas bien, là, il y a des gens justement qui vont se dire hey, « ça ne vaut pas le jeu, là, je ne vais pas reprendre ça ». Fait que oui, effectivement, il y a des gens qui n'auront pas ce besoin-là parce qu'ils vont comprendre rapidement le danger de l'effet négatif après une drogue aussi intense que l'héroïne.
À partir du moment où tu es en mesure, pendant une quinzaine de minutes, d'expliquer tout ce qui se passe dans le corps et dans ton esprit quand tu as un phénomène d'addiction, es-tu en train de te padder à devenir addict? Est-ce que ça aide justement à ne pas développer d'addiction?
C'est pas fou, ça. Ben, en fait, moi, c'est pour ça que j'étais contente qu'on ait cette conversation-là ce soir, parce que je me disais effectivement, moi, puis je suis comme ça, puis je pense que tout humain est comme ça un peu, quand on comprend qu'est-ce qui se passe, ça nous aide après ça à justement se donner des mécanismes de défense différemment, puis de se dire « Ah ouais, c'est pour ça que... » Puis moi, tu sais, je regarde entre autres mes beaux ados, puis je t'entendais dans la voiture, tu sais, mes beaux ados qui ont le cellulaire à la main, qui ont les jeux vidéo... Comme je vous disais, maintenant, la technologie est aussi dopaminergique.
Une addiction,
oui. Moi, je suis beaucoup dans leur expliquer le côté cartésien. T'sais, voici pourquoi ça vous crée ce besoin-là. Quand vous finissez votre tableau, c'est fait pour que ça vous donne encore de la dopamine pour vouloir continuer l'autre tableau. Puis là, ils sont comme... Ah, ouais.
C'est comme, vous faites manipuler. Là.
Exactement. Puis ça, il n'y a personne qui aime ça, se faire manipuler. Fait que oui, je pense que c'est tout à fait une bonne chose de comprendre comment ça fonctionne pour après ça se donner des bons outils. Là, ça fait un mois qu'on est en nouvelle année. Donc, s'il y a des gens qui ont encore tenu leur résolution, justement, qui avaient
il en reste-tu?
Des dépendances, bien, continuez, lâchez pas.
Yes. Puis c'est toujours le fun en passant. Moi, j'admire ça, je respecte ça énormément. Quand tu vois des gens sur les réseaux sociaux qui, une fois de temps en temps, font juste dire, moi, ça fait 7 ans que je vis sans alcool. Ça fait 1 an que je me suis débarrassé des drogues. J'ai croisé un ancien collègue il y a quelques semaines qui, à un moment donné, a décidé qu'il arrêtait tout ça, puis il n'a pas lâché. Puis tu vois que les gens changent physiquement, mais changent d'état d'esprit aussi. Puis je trouve toujours ça fascinant, ces parcours-là. Puis les gens qui prennent ces décisions-là, puis qui sont capables de les tenir, bravo à toutes vous autres. C'est extraordinaire de vous voir aller. Élise, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
17h16, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. On revient. Gravel. Dans le retour. Boulevard.